Le salut est en Jésus seul. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous parler sur deux courtes paraboles qui sont des paraboles assez difficiles. D'ailleurs, j'aime bien ces textes où il y a un os à ronger, comme ça, ça me permet d'aller plus loin. Je vais déjà vous les lire. Ils ne sont pas longs, rassurez-vous, mais ils sont corsés. Luc 17, 5, 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, c'est pas gros, hein, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Pas facile, hein? Pas facile comme texte. Ces versets sont difficiles à entendre, mais c'est précisément parce qu'ils me dérangent que j'ai commencé à crocher. Ils viennent en opposition avec mon désir, plus ou moins déclaré, d'être connu parce que l'on fait, parce que je fais. Mais j'aime ces textes qui me déstabilisent, parce que je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose là derrière, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Alors je cherche derrière. Et elle me pousse dans mes retranchements en essayant de comprendre ce qu'ils veulent réellement dire. Et ce matin, je vous associe à mes recherches. Donc, juste un petit rappel rapide. Vous le savez déjà, mais je le rappelle. Une parabole, c'est juste une histoire de Jésus qui prend un fait divers, qui prend une manière de cultiver, qui prend des choses, des images de l'époque pour expliquer une vérité spirituelle qui n'est pas facile à comprendre. Ça, c'est le but de la parabole. Une deuxième chose de la parabole qui est importante et qu'on dit moins souvent, chaque parabole a une seule idée principale. Ce n'est pas un précis de théologie où on va commencer à chercher les nuances patati patata. Dans chaque parabole, il nous est demandé de trouver l'idée principale de cette parabole, point barre. Et tous les détails de la parabole autour sont pour nous expliquer et nous amener. Et notre but à nous, c'est de trouver ce que ces paraboles veulent dire. Maintenant, j'aimerais définir le mot « inutile », traduit par un mot grec imprononçable pour moi, donc j'éviterai de le prononcer, et qui renferme l'idée aussi d'être sans profit. Nous sommes des serviteurs sans profit. Ça veut dire que ces serviteurs sont inutiles dans le sens qu'ils sont sans profit pour leur maître. Ils ne rapportent rien, en fin de compte. Voilà. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. C'est étonnant quand même. Parce que quand vous lisez la parabole, eh bien, ils bossaient ces gens. Ils allaient paître les troupeaux, ils allaient labourer, ils allaient, après ça, ils mettaient le linge autour de leurs reins pour aller servir leur maître. Et malgré tout, ils sont sans profit et inutiles. Continuons. À la lecture du verset 10, je me suis imaginé une page de journal avec des appels d'offres d'emploi du type « Cherchons plombier, cherchons secrétaire ». Cherchons juristes qui se reconnaissent comme inutiles et sans profit. Je ne pense pas qu'ils recevraient énormément de demandes d'emploi. Ou bien une autre, on pourrait faire jeune homme, jeune cadre dynamique, licencié à HEC, qui se sent inutile et sans profit, cherche une place dans une compagnie d'assurance. Je doute qu'il ait beaucoup de succès pour recevoir des offres. Et ce matin, mes amis, la Bible, la parole de Jésus m'invite, ainsi que vous, qui m'écoutez, à déclarer chacun pour soi-même, je suis un serviteur inutile, sans profit. Et je vous encourage, mes amis, nous allons tous le dire à voix basse, ensemble, pour soi-même. Je suis un serviteur inutile, sans profit. Ça fait drôle, hein, quand même. On n'a pas habitude de tout à coup tourner la lorgnette comme ça. On aime mieux être utile qu'inutile. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement une expérience agréable. Mais c'est ce que nous dit la Bible. Dites, vous êtes des serviteurs inutiles. D'autant plus que cette parabole en suit une autre qui n'est pas plus favorisante. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, en tout cas chez moi, je n'ai jamais réussi, les mains dans les poches, par la foi, à déplacer des arbres pour qu'ils se plantent un peu plus loin. Ça m'arrangerait bien, j'ai planté des platanes beaucoup trop près de la maison, j'aimerais qu'ils soient 50 mètres plus loin, ils n'ont pas bougé. Donc, ça ne marche pas nécessairement, donc je dois vraiment avoir une toute petite foi. Parce que si vous aviez une foi comme un grain de moutarde, il bougerait. Alors ça, c'est aussi super valorisant. D'une part, on est inutile, puis après, on a une petite foi comme ça. Hein? Alors, voilà. Franchement, nous avons des récits ici, si on les prend au premier degré, à désespérer les chrétiens les plus courageux et à faire fuir nos églises, les chrétiens de meilleure volonté. Parce que finalement, à quoi ça sert? Car on le sait bien de nos jours, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Tout le monde le sait, il faut encourager, il faut motiver, il faut féliciter en permanence. C'est le principe du management, enseigné à tous les consultants en formation. Féliciter avec des paroles qui positives, etc., pour que les collaborateurs bossent bien. Il y a 2000 ans, ces écoles de management n'existaient pas. Et bien sûr, on voit bien que Jésus ne les a pas suivies. Lui qui nous demande de nous dire à nous-mêmes que nous sommes inutiles et sans profit. C'est d'ailleurs à rebours du bon sens, cette histoire. Aujourd'hui encore, un des grands principes de la société se trouve dans l'obsession d'être apprécié, d'être reconnu. Je suis reconnu par ce que je suis. Je veux être reconnu par ce que je fais. Je veux être reconnu par mes carnets d'adresses. Oh, il a un carnet d'adresses. Tu as besoin de quelque chose, va vers lui. Il va te mettre en relation. Oh, magnifique, je suis reconnu. Être reconnu pour ce que nous sommes, pour le travail que nous fournissons. Être reconnu surtout dans le regard des autres. Ça, c'est la société actuelle. Et puis aussi, il faut se sentir sûr de soi, avoir des compétences, bref, essayer d'être le meilleur. D'ailleurs, je suis. Voilà. Et c'est vrai que pour tout, c'est aussi valable pour les activités. Il faut qu'une activité serve. Si elle n'a pas un but, si elle ne sert pas à quelque chose, c'est complètement nul de la faire. Pourquoi la faire? Moi, si je vais courir, je vais mon truc au poignet qui va me dire que j'ai gagné 5 secondes sur mon parcours et puis que mon cœur a battu 3 battements de moins. C'est-à-dire que je m'entraîne. Autrement, si je cours comme ça, ça vaut pas le coup. Il faut qu'il y ait un but. Nous vivons dans une société de résultats et d'efficacité, de la reconnaissance, et non dans une société du don et du service. Alors, m'entendre dire que je dois me considérer comme inutile et sans profit, c'est déjà difficile. Et qu'en plus, malgré tous mes efforts, me faire comprendre que je n'aime même pas la foi plus grosse qu'un grain de moutarde, alors ça, c'est le comble. Et quand je dis cela, je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est Jésus qui parle. On ne peut pas accuser Paul ou un autre apôtre d'avoir parlé pour lui, puis d'avoir mal compris. C'est écrit noir sur blanc. Voilà ce qu'on leur pourrait penser en lisant ces textes rapidement, sans essayer d'en chercher les perles qu'elles contiennent. Et vous allez voir, ils en contiennent des perles, ces textes. Je vais reprendre plus à fond pour vous en montrer la richesse. Revenons d'abord au début de ce texte que j'ai lu. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Car ils éprouvaient le besoin d'avoir plus de foi qu'ils n'en avaient pour essayer d'arriver à tout ce que le Seigneur leur disait, leur montrait de faire. C'était une demande légitime. un sentiment que nous connaissons certainement tous. Nous avons tous prié pour avoir plus de foi. Seigneur, augmente ma foi. Mais la réponse de Jésus n'est certainement pas celle qu'ils attendaient, et puis pas celle que nous aurions attendue si nous avions été à leur place. Il compare notre foi à un minuscule grain de moutarde. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire de cela ? C'est que si on a une toute petite minuscule graine de moutarde, on pourrait déplacer un sycomore. Ça veut dire que la foi n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il devait apprendre comme nous, faire intervenir Dieu dans toutes les circonstances de la journée et de la vie. C'est ce que fait la foi. Et elle sera alors en mesure d'accomplir des œuvres de foi qui sont hors de l'entendement humain. Dieu répond à la plus petite foi pour autant qu'elle soit sincère, même si elle est toute petite comme une graine de moutarde. Et nous ne devons pas nous inquiéter de savoir si c'est possible ou non de déplacer un sycomore dans la mer. Je répète, la foi, la vraie, nous est proposée ici non pas quantitativement, mais qualitativement. C'est une confiance dans laquelle nous pouvons nous placer dans le pouvoir de Dieu. Cette qualité de notre foi, eh bien, elle est le résultat de la prière, elle est le résultat de la méditation de la parole, elle est le résultat de la louange, de l'adoration. Elle est le résultat, et quand on est avec Dieu, on a une confiance, on commence à avoir confiance en lui. Il y a une relation, parce que nous avons un Dieu de relation. Et cette confiance, après, elle se transforme en assurance. C'est comme la même chose au début. Au début, on croit que Dieu existe, puis après, on sait que Dieu existe. Mais il faut passer d'abord à croire pour après savoir. Il faut déjà avoir confiance avant d'avoir de l'assurance. Et c'est cette foi-là, avoir de l'assurance. Parce qu'une fois qu'on a l'assurance avec Dieu, alors on sait que Dieu est aux commandes et qu'avec lui, on peut y aller. Et c'est très important de se dire que c'est vraiment l'assurance et cette foi. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. Quelle que soit la qualité de notre foi, Dieu reste toujours souverain. C'est toujours lui qui décide, en fin de compte, s'il va écouter notre prière, il l'écoute toujours, mais mettre en pratique ce que nous lui demandons ou pas. Dieu reste toujours souverain. Nous ne mettons jamais Dieu en boîte par notre foi ou par nos prières. Dieu reste souverain. Alors, je pense que vous avez compris l'idée maîtresse de cette très, très courte parabole. La foi n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Ça signifie que même si vous avez une toute petite foi, et que vous êtes proche du cœur de Dieu, ce dernier, à travers vous, peut réaliser de très grandes choses. Vous connaissez, je pense, aussi ce fameux verset, j'aime bien maintenant, je ne sais pas la référence, mais « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Donc, de ce qui précède, nous avons déjà tiré une leçon importante. Si dans sa grâce, Dieu répond à une foi aussi minuscule soit-elle, même si c'est magnifique, même si on est content, waouh, Dieu a répondu, c'est donc, nous devons aussi garder en mémoire que nous ne pouvons nous en glorifier d'aucune sorte, dit d'aucune manière. Dieu ne nous doit rien. Voilà, ça c'est clair. Nous ne nous doit rien. Quelle que soit notre relation que nous avons avec lui, tout est grâce de sa part. Nous ne pouvons donc pas en retirer un mérite quelconque. Dieu ne nous doit rien. Tout ce que nous faisons, Dieu peut le faire. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Point barre. Ça s'arrête là. Le salut est une grâce et tout a été payé à la croix. Je vais relire maintenant, c'est précisément cette idée que l'on retrouve dans la seconde parabole que j'ai lue. Et je vais la relire parce qu'elle est courte. Écoutez bien. Qui de vous ayant un serviteur, donc c'est Jésus tout à coup qui parle aux disciples, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sainte-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le personnage central de cette parabole, que nous traduisons par serviteur, est en réalité un esclave. Parce que lorsque le serviteur revenait des champs, un serviteur, il avait le droit à la table et il avait le droit au repos. Et d'ailleurs, quand on prend le mot grec pour ce terme, alors ça, je peux le prononcer, donc je ne vais pas me priver, c'est doulos, ça va bien, c'est dans mes cordes, qui signifie un esclave. C'est un homme de condition servile. Et c'est aussi intéressant, écoutez, ça c'est intéressant parce que dans doulos, il y a aussi l'idée de ceux qui veulent librement être esclaves de Dieu. Librement être esclaves de Dieu. C'est joli ça, hein? Comme Jésus l'a été de son Père en acceptant d'être obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Vous voyez le rapport? Voilà. Mais parlons de la condition de l'esclave il y a 2000 ans. Elle n'était pas top, hein, cette condition. L'esclave n'avait pas d'horaire, ni de temps personnel. Il devait bosser, il ne s'appartenait pas à lui-même. Personne pour l'inviter à arrêter son travail, personne pour le plaindre, personne pour l'aider quand il avait mal. Tout le monde, il n'avait qu'à bosser, à bosser, à bosser. Il était contraint de s'oublier. Et puis s'il avait un maître cruel, il mourait à la tâche, tout le monde s'en fichait. Donc il devait servir, servir et servir. C'était la routine de l'esclave dans ces temps reculés où le droit de la personne humaine n'existait pas. Il va sans dire que l'esclave ne pouvait s'attendre à aucune manifestation de reconnaissance, quelle qu'elle soit. Il était à la disposition de son maître. Alors nous pouvons légitimement nous poser la question, une fois qu'on a eu cette magnifique définition de l'esclave, de savoir pourquoi nous sommes considérés dans cette parabole comme des esclaves. C'est quand même un mot dur, être esclave. Dur à s'entendre dire. Étonnamment, la raison pour laquelle nous sommes appelés esclaves n'est pas dite dans cette parabole. Parce que ce n'était pas le sujet de la parabole. La parabole, ce n'est pas ça. Mais on trouve, bien sûr dans les Écritures, des versets qui nous expliquent pourquoi on peut être appelé esclave. Par exemple, dans 2 Corinthiens 5:15, Paul écrit « Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus par eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. » C'est le même genre de verset. « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc Christ vit en moi, je vais faire la volonté de mon Père, que ce que Jésus me demande de faire. À la grande différence quand même, mes amis, c'est que Dieu nous laisse toujours libres de le faire ou de ne pas le faire. Alors qu'à l'époque des Romains, l'esclave, il n'avait pas le choix. D'accord. Mais la signification du mot esclave reste la même. Bien sûr, ne nous imaginons pas que Jésus cautionnait la pauvreté de son époque, cautionner qu'il y ait des esclaves, puisque dans son enseignement, c'est complètement à rebours l'esclave, puisqu'il parle de l'amour du prochain. Bien sûr que non, mais il utilise cet exemple-là pour nous faire comprendre une leçon essentielle. Mais il ne porte pas de jugement dans cette parabole sur cette condition de l'esclave. Il y a aussi une chose très importante. C'est un petit peu compliqué, mais il faut passer par là, parce que c'est intéressant. Le Seigneur présente cette parabole aux disciples sous forme interrogative. Et voyez-vous, c'est très important, c'est très intéressant quand on pose des questions sous forme interrogative, parce que ça oblige l'interlocuteur à se poser des questions. Si je dis « la poste est patati patata », où vous dormez, où ça vous intéresse, vous intéresse pas, vous en fichez ou pas. On va parler de la poste, etc. Mais que pensez-vous de la poste que, tac, vous avez votre idée et vous allez crocher l'hameçon. Et c'est la même chose que fait Jésus. Là. Il parle sous forme interrogative. Et ça, c'est intéressant. Et ça qui rend déjà beaucoup plus expressive la parabole. Et il place les disciples dans une situation qui les oblige à répondre eux-mêmes à la condition de l'esclave. Au début, il les met comme maître. Qui de vous ayant un serviteur ? Donc, c'est les maîtres. Qui de vous ayant un serviteur ? Donc, ils vont réfléchir à ce que fait l'esclave. Et la parabole, elle est là pour leur montrer la condition de l'esclave. Et puis tout à coup, changement de cap. Il a dit, vous de même. Une fois que vous aurez fait tout ce que vous avez fait, patati patatatata, dites que vous êtes inutile. Brrrt, il passe de maître de nouveau à esclave. C'est intéressant. Pourquoi cette forme interrogative ? Pourquoi les disciples devaient-ils s'identifier au maître pour devenir sans crier gare de nouveau des serviteurs serviles ? Rappelez-vous, quand les disciples demandaient plus de foi, ben c'était légitime. Mais nous connaissons les disciples. Quand vous avez lu les évangiles, ils voulaient aussi avoir plus de foi pour faire des miracles. Mais ces disciples, il y avait une terrible concurrence entre eux. Qui est le premier ? Vous vous rappelez ? C'est qui le premier ? Puis c'est qui va s'asseoir à droite quand tu seras au paradis ? Moi, j'aimerais bien être assis à droite dans les autres. Les autres dégagent, mais moi. Donc le Seigneur savait parfaitement, connaissait ses disciples, que s'ils voulaient plus de foi, ils couraient le danger de se justifier devant Dieu qu'ils sont bons et qu'ils méritaient de la reconnaissance de sa part, après tout ce qu'ils ont fait pour lui. On n'est pas loin, hein ? Nous aussi. Ah Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi. Ah Seigneur. Après toutes mes prédications, après toute mon évangélisation, tous ces gens qui se sont convertis. Oh, mais Seigneur, tu ne m'oublies pas, j'ai quand même bien. Ah, puis tous ces malades que j'ai visités, patati et patata, et boum, 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 et on gonfle. Hein? Alors, c'est juste pour éviter ça. Le Seigneur a compris cela. La parabole du serviteur inutile est donc pour dire aux disciples une manière de les remettre en place, de leur faire poser les questions et qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses. Ça va mieux que quand on nous les dit. C'est une manière de leur dire, le salut ne se négocie pas. Il ne se marchande pas. Et ceci est bien sûr valable pour nous aujourd'hui. Nous n'avons aucun mérite d'être sauvés. Par la foi, vous êtes sauvés. Mais le Seigneur a payé le prix. Nous ne payons pas notre salut par les œuvres. Pour moi, c'est le verset 10. Ça, il est magnifique, ce verset 10. Verset 10, tout est dans ce petit mot « dites ». Écoutez bien. De même, vous, une fois que patati patata patata, une fois que vous avez tout fait ce que vous avez à faire, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. En fait, ce n'est pas le Seigneur qui dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Il nous dit de nous le dire à nous-mêmes, ce qui est loin pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il nous dit de nous le dire à nous-mêmes pour pas qu'on se gonfle comme une pétufle. Nous sommes inutiles, sans profit, parce que nous n'avons pas à payer notre salut par nos actions et par nos œuvres. Notre salut a été payé une fois pour toutes à la croix, et c'est un don de Dieu. Ça, c'est là l'idée principale de cette deuxième parabole. La première, la foi n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Et la deuxième, c'est que le salut ne se négocie pas, il est donné par grâce. Voilà. Et d'ailleurs, Paul l'a très bien compris quand il reprend dans Éphésiens, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Point barre. Donc, ça me paraît clair. Mais alors maintenant, je dirais, mais alors les œuvres ? Qu'est-ce qu'on fait de Jacques, là, là-dedans ? Lui qui ne parle que par les œuvres. On en fait quoi des œuvres ? Alors, il y a deux points importants qu'il faut relever. D'abord, nous sommes des serviteurs, des esclaves inutiles, mais nous faisons des choses utiles. Alors, déjà, simplement une question de bon sens, c'est que le Seigneur ne va pas quand même nous utiliser pour faire des choses stupides. Donc, du moment qu'il nous demande quelque chose, ben, c'est utile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, inutile ne signifie pas nécessairement ce dont on peut se passer. Et voyez-vous, dans la parabole, les serviteurs, ils bossent. Qu'est-ce qu'ils font, ces serviteurs ? Ils labourent et ils font paître le troupeau. Et ça, mes amis, ce n'est pas par hasard que ça a été dit. Ça, le Seigneur savait parfaitement ce qu'il disait quand il a donné ces deux exemples. On va les reprendre. Labourer, qu'est-ce que c'est que labourer ? Labourer, c'est préparer la terre. C'est préparer la terre dans le champ avant qu'il soit planté et semé. Ok, bon, c'est la même chose, semer, planter et arroser. Bref, c'est préparer le terrain. Vous connaissez l'expression « prépare le terrain pour ci, pour ça », hein ? D'accord, ok. Et dans la version Darby, c'est pas dans la version seconde, mais dans la version Darby, au 1 Corinthiens 3:9, quand Paul parle à l'église de Corinthe, il leur dit « Vous êtes le labourage de Dieu ». C'est joli. Et puis, il dira « Paul a semé et Apollos a arrosé. » Il faut préparer le chemin. Et le Seigneur a besoin d'esclaves pour préparer le chemin des cœurs, pour recevoir la parole de Dieu. Et pour recevoir la parole de Dieu, eh bien, il faut la dire. On ne va pas la recevoir si on ne la dit pas. Puis après, il faut l'arroser et la planter. Donc, le labourage, c'est apporter la parole de Dieu, préparer le terrain. C'est le Seigneur qui prépare le terrain. Et quand la parole arrive, là, les personnes sont touchées. Enfin, certaines, pas toutes. Et puis, Petre. Alors, Petre, bien sûr, vous connaissez quand il a parlé à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux, après leur niement, hein, quand il a revu Pierre après. Qu'est-ce que c'est que Petre ? Petre, c'est nourrir le troupeau. C'est guider le troupeau, c'est protéger le troupeau, c'est garder le troupeau. Alors, entre labourer et paître, nous avons là deux services chrétiens très importants. C'est la préparation des cœurs pour recevoir la parole de Dieu, c'est labourer. Et veiller et prendre soin de ceux qui lui appartiennent, c'est paître. Les deux fonctions de ces serviteurs inutiles sont extrêmement importantes. Et ceci est tout à fait en conformité avec ce que Jésus donne à ses disciples juste avant son ascension, qu'on appelle ces versets la Grande Commission, où il a dit, Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 10 jours après, plaque, Pentecôte. Voilà que l'Église reçoit le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur savait pertinemment qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche gigantesque d'aller jusqu'aux extrémités du monde à annoncer l'Évangile. C'est une tâche gigantesque. Mais il avait besoin du Saint-Esprit pour les aider dans le cœur du croyant. Et c'est par pure grâce qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour les guider, mais aussi les remettre en place si l'orgueil commençait à montrer le bout de son nez en disant « je suis quand même un type bien ». Non, c'est le Saint-Esprit à travers toi qui fait le travail. Toi, tu es juste un canal, mais tu obéis comme un esclave, point barre. C'est ça qui est important. C'est l'histoire du sarment et du cep. Le cep, c'est Jésus, le sarment, c'est nous. Et le Saint-Esprit passe à travers le sarment pour porter du fruit. Notre boulot à nous, ce n'est pas de boucher les canaux par l'orgueil. Si les canaux sont bouchés par l'orgueil, on n'aura pas de fruit parce que le Saint-Esprit ne peut pas passer. Vu que c'est moi-jeu, il n'y aura pas de fruit. C'est le Saint-Esprit qui fait le fruit. Ce n'est pas le moi-jeu. Moi-jeu, il fait du mauvais fruit, s'il en fait, de toute façon. Voilà. Alors, encore une fois, tout est grâce de la part du Seigneur. Il nous donne tout. Il nous donne déjà le Saint-Esprit. Pour faire le boulot. Mais attendez, ce n'est pas tout. La bénédiction du Seigneur ne s'arrête pas là. Non seulement le Seigneur nous soutient et nous aide par le Saint-Esprit, si nous le laissons à la place, mais il récompense ses serviteurs. Nous voyons clairement que le Seigneur récompensera la fidélité des serviteurs pour les services fournis. On le voit dans la parabole des talents. Celui qui a fait fructifier 10 talents, il est récompensé. Celui qui en a fait fructifier 5 aussi. Et puis aussi toutes les histoires des couronnes. Les couronnes, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il y en a 7. Mais il y en a 3 pour les chrétiens. Il y en a 3. Il y a la couronne de vie, la couronne de justice et la couronne de gloire. On ne sait pas très bien ce que c'est ces couronnes. Il y a les avis divergent. Mais on sait une chose, c'est que ce sont des récompenses. D'ailleurs, Paul le dit, je vais recevoir la couronne de gloire. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais c'est des récompenses. Donc, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit et ensuite, il nous récompense. Mais quelle que soit la récompense accordée par le Seigneur, ce sera encore une fois par pure grâce. Et qu'est-ce qu'une grâce? Peut-être donner la signification. C'est un cadeau, c'est un don reçu qu'on ne mérite pas. C'est pas mal quand même. Voilà. Quand nous n'avons rien à revendiquer. Le Seigneur agira ainsi parce qu'il est fidèle à lui-même et parce qu'il est bon. Et quand vous lisez les psaumes, quand vous lisez « L'Éternel est bon », la bonté de l'Éternel, elle est constamment sous nos yeux, cette bonté de l'Éternel. Et il met en pratique ce qu'il dit, parce qu'il est comme ça. C'est pourquoi, de notre côté, l'amour pour notre Seigneur devrait être le seul vrai motif pour travailler pour lui. Dieu nous aime, je l'aime, c'est une relation entre les deux, mais ce n'est pas pour un désir d'être rémunéré, quel que soit. On n'est pas rémunéré, on est déjà rémunéré, on a été déjà racheté. Mais on ne s'arrête pas là, les bénédictions continuent. Non seulement il nous récompense, mais il va plus loin. Rappelez-vous, dans notre parabole, le Seigneur Jésus fait dire au maître de l'esclave, ceins-toi, donc mets un linge autour de toi, serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Mais que dire quand nous entendons le Sauveur parler de ses esclaves qui l'ont servi fidèlement et qui l'ont attendu? C'est en Luc 12, 37, « Heureux ces esclaves que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. » Incroyable! Je trouve ça impressionnant. Quand le travail au champ, labouré, paître, sera terminé pour les esclaves et que le maître sera de retour dans sa maison, alors il montrera son immense amour en se mettant un linge autour des reins et en servant ceux qui l'ont servi. Il vous fera jouir de la gloire de la maison de son Père. C'est lui qui nous servira. Lui, le Créateur des cieux et de la terre, se mettra à nous servir. C'est quand même impressionnant. Ça, je trouve impressionnant. Alors, quelle grâce nous avons de pouvoir louer, adorer un Dieu comme ça. C'est d'ailleurs, c'est le seul, mais les autres ne le savent pas, ceux qui ne le croient pas. Mais voilà. Alors, réalisez-vous combien on est très, très loin de la désespérance qu'on aurait pu avoir en lisant ces saints versets sans aller un peu en creuser les richesses, où on était prêt à filer de l'église parce que ça n'avait pas la peine d'y rester. Et puis là, on voit que le Seigneur lui-même nous servira à la fin des temps. C'est magnifique. Et pour conclure, j'ai envie de vous dévoiler le fond de ma pensée suite à ces deux courtes paraboles. Le fait de me voir, de me considérer comme un esclave inutile et sans profit, me réjouit. C'est une véritable bénédiction pour moi, car cela me rend libre. En effet, je suis libre. Je suis libre, je n'ai plus à m'inquiéter de mon salut. Il est acquis une fois pour toutes. Je peux mourir maintenant, demain, dans 20 ans. Je sais où je vais. Je me sens en sécurité entre ses mains, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il me demande de faire, je suis confiant et rassuré, car je sais qu'il est là pour suppléer à mon manque de foi. En fait, je suis un esclave heureux. Je dirais pire, je suis un esclave libre, ce qui est quand même paradoxal. Ça, d'accord, ok. Et je vous invite ce matin, du fond du cœur, à vous laisser envahir par cette présence de Dieu, à vous laisser envelopper entièrement par sa grâce qui dépasse notre entendement, par son amour. Et si c'est le cas, arrêtez de vous épuiser, arrêtez de lutter par vos propres forces. Je vous invite à déposer tout ce qui vous pèse, à déposer vos colères, à déposer peut-être vos rancunes ou vos tristesses ou vos soucis ou le souci du regard des autres. Non, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire ? On s'en fiche. Laissez tomber ça et remettez tout entre ses mains. Je vous invite à vivre une relation vivante avec lui. Parlez-lui souvent, pas seulement le dimanche ou le soir quand vous priez ou le matin, la journée. Oh, c'est beau, Seigneur, merci, tac, tac. Ce n'est pas que faire prier en langue. Mais ayez une relation vivante avec lui. Il est là, il est à côté de vous, il est en vous. Vous n'êtes jamais seul et il ne vous abandonnera jamais. Déposez, priez, louez et remerciez-le pour sa grâce et son amour. Et j'aimerais terminer par une prière que je vais lire. Ce n'est pas l'habitude de lire des prières, mais celle-là est écrite par une sœur Henriou. Je ne sais pas si ça soit une sœur de Saint-Loup. Et je vous invite à la prière. Seigneur, j'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'accable et qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j'espère, et le pourquoi de mon destin, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout à ce que ce jour j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou bien la fin, car tout est bien entre tes mains. Amen.